MCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. On veut des disciples. C'est pour ça que cette émission a été conçue. Des disciples de Jésus-Christ qui n'ont pas juste la matière dans la tête, mais qui ont la foi dans le cœur et le caractère dans leur vie quotidienne. Justement, pour ça, on a commencé à parler du cœur, de comment protéger notre cœur contre tout. Et depuis le premier jour, on a défini le cœur et puis on s'est mis à protéger nos cœurs, à préparer, à organiser le combat. Comment on se bat avec le monde ou contre le monde actuel, comment protéger son cœur contre le monde actuel. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous focaliser sur Satan, le diable, si c'est lui maintenant l'adversaire. Avant, c'était le monde. À travers lui, certes, l'ennemi derrière insufflait un vent. Mais lorsque l'ennemi, lui, personnellement, vient sans détour et qu'il nous vise, nous, directement, de quelle manière pouvons-nous protéger nos cœurs? N'oubliez pas, ici ce n'est qu'un tout petit aspect du grand combat spirituel, mais on le prend ici de l'aspect à protéger notre cœur. Que faire lorsque l'ennemi a levé tout un tas de stratégies, stratégies qu'on ne va pas apprendre ici, parce qu'on est plus en train d'apprendre comment nous, on constitue notre rempart pour nous protéger contre les attaques du monde avant, maintenant, du diable. Alors, let's teach, grandissons ensemble. Aujourd'hui, ce que j'aimerais essayer de faire, mes amis, c'est nous aider à construire encore une fois de plus des remparts sains. On se dit de la bonne manière, quelles sont les habitudes, les façons d'être que l'on peut placer autour de soi pour que lorsque le diable vient nous attaquer, il le trouve de l'opposition, une résistance. Et quand il vient attaquer ici nos cœurs, quand l'ennemi en veut à nos cœurs, quand il veut atteindre nos cœurs, n'oubliez pas, nos cœurs, la source de tout ce qui fait notre vie. Ce qui signifie que l'ennemi a besoin d'atteindre ça. N'avez-vous jamais vu, je vois des fois dans des films, tout ça là, vous savez que le mot cœur ne signifie pas seulement cette partie de notre corps, ce muscle. Vous savez que cœur vient dans l'idée de tout ce qui est au centre, le centre. Moi, je regardais plein de films où, voilà, il faut aller détruire la matrice, il faut aller détruire le cœur de un robot qui est, je sais pas moi, une intelligence artificielle qui s'est pris des folies plutôt. Il faut aller trouver là où se trouve le cœur de son cerveau. On sait bien que si on veut détruire un système, il faut toucher le cœur. Aussi beau que peut être un véhicule qu'on a touché au moteur, on a touché au cœur d'une certaine manière. Lorsque on est en combat, l'adversaire veut toucher le cœur. Cette partie où quand il touche, le reste ne fonctionne plus. Et l'ennemi, Satan, il le sait que quand il se bat contre les chrétiens, il faut viser leur cœur. Si tu peux réussir à toucher leur cœur, tu le fais perdre complètement dans le combat spirituel. Vous pouvez avoir des gardes bien levés, mais si vous n'allez pas bien vous-même, vous allez tomber sans qu'on vous ait attaqué. Alors l'ennemi, s'il peut toucher à ce centre qui nous fait vivre, s'il touche là, il a touché au reste de notre vie. C'est comme s'il allait empoisonner la source. Ça va couler dans le reste de nos actes. Si nos cœurs sont entre ses mains, ça veut dire que tous les autres aspects de notre vie sont influencés par cette façon de voir que l'ennemi aura placé autour de nous. Le cœur, mes amis, de chrétiens, doit être protégé. On a commencé à apprendre depuis le début de cette semaine que c'est de notre responsabilité. Il y a des choses que nous devons apprendre à faire et on a bien appris, par exemple, que quand on se met dans la prière et on se met loin de tout ceci, c'est comme ça que l'Éternel gardera notre cœur en Jésus-Christ. Donc, à l'initiative, c'est nous qui sommes en train de faire quelque chose. Dieu nous a donné la responsabilité et dit, garde ton cœur. Garde-le plus que toute autre chose, car c'est de ce cœur-là que viennent les sources de la vie. Alors, lorsque l'adversaire, c'est Satan, il m'étarde un jour, je le sais très bientôt avant la fin de cette année, par la grâce de Dieu, de pouvoir aborder le sujet du combat spirituel. C'est un merveilleux, vaste, profond sujet. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment de ça que je vais parler. Donc, je ne vais pas vous parler des armes du diable, je ne vais pas vous parler des envoûtements, des trucs comme ça, des termes qui font peur des fois. En fait, ce que j'aimerais vous parler ici, c'est de comment, lorsque les attaques viennent du diable, quels que soient les genres d'attaques, on ne va pas faire des stratégies basées sur les types d'attaques. mais de façon générale, quand l'adversaire de l'autre côté, quand celui qui essaye de pénétrer le système, c'est Satan, comment on se barricade? Quand le hacker de notre cœur, c'est l'ennemi, comment on se barricade? Quand de l'autre côté, quelqu'un entre des codes et il veut prendre le contrôle de notre cœur, et c'est qui le hacker? C'est Satan. Comment on se place des pare-feux pour pouvoir se protéger? Je pense que ce terme-là, ce langage-là a été utile pour tout ce qui est en informatique, certainement. Comment, quand c'est l'ennemi qui veut entrer, quand on sait que c'est Satan, quel type de barrage, de barrière, quel type d'accès, je veux dire, des mots de passe, on multiplie. Quel est le système de protection qu'on peut avoir dans notre cœur quand l'initiative de venir envahir vient de l'ennemi? Premièrement, bien sûr, c'est tellement évident, n'est-ce pas? C'est ce que, frère, vous soyez capable de revêtir la mienne. C'est-à-dire l'armure de Dieu. Rêvez l'armure, mon frère. Rêvez l'armure, ma sœur. C'est ça le premier conseil que je puisse te donner. La première des choses dans cet enseignement. Rêvez l'armure de Dieu. Encore, aujourd'hui, je donne beaucoup d'exemples de cinéma. Vous savez, il y a toujours dans des films comme ça, des occasions où vous avez l'impression qu'un acteur est mort, on l'a tiré de loin, il était là par terre, et puis vous avez dit, ah, mais franchement, c'était un personnage que j'aimais bien, comment il est mort. Et au bout d'un moment, on vient vous montrer qu'il n'était pas mort parce qu'il avait un gilet pare-balles. Vous avez déjà vu ça, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte, ah, il n'était pas mort, il avait un gilet pare-balles. Nous, chrétiens, nous avons tendance à beaucoup penser aux instruments et aux moyens que nous avons de nuire ou d'offenser. Le nom de Jésus, la puissance de ceci, cela. Mais lorsque la Bible nous parle dans le combat que nous menons, la Bible, elle, met un plus grand accent sur nos gilets pare-balles. Ouais. Sur l'armure que nous devons revêtir avant de parler des larmes que nous devons utiliser. Dans cette guerre avec l'ennemi, 90% d'efforts doivent être fournis pour l'armure à revêtir. Seulement 10% sont fournis pour l'arme avec laquelle attaquer. L'armure à revêtir, Paul l'enseigne dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11. Je vais juste vous lire verset 11 et puis je lirai tout à l'heure aussi le verset 16. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Vous voyez? L'ennemi est en guerre avec nous et il a des ruses, il a des stratagèmes, il a des techniques, il a des stratégies. Et la Bible dit pour ça, faut pas prendre une arme tout de suite juste à le jeter. C'est une armure. C'est un revêtement complet que vous allez avoir. Il n'y a pas que de l'offensif, il y a aussi du défensif. Le verset 16 de toujours Éphésiens, chapitre 6, verset 16, la Bible dit « En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. » Vous voyez, la Bible est en train de parler dans des armures très claires qu'on appelle le bouclier de la foi. Lorsqu'on décrit l'armure du combattant ici, du chrétien, l'armure que Dieu nous donne, on parle de casque du salut, cuirasse de la justice qui protège à cette partie de la poitrine. Et il y a encore le bouclier de la foi. On voit comment toutes les parties sensibles du corps du combattant sont bien protégées. Frères et sœurs, si vous voulez être sûr que lorsque l'adversaire en a après votre cœur, vous l'avez bien protégé, comme la Bible dit, veillez, vous avez veillé dessus, alors revêtez-vous de l'armure de Dieu. Ça signifie quoi? Concrètement, Pasteur Atom, se revêtir de l'armure de Dieu. Encore un langage spirituel très complexe. Ça signifie quoi? Ça signifie simplement que vous connaissez les armures de Dieu, non? N'est-ce pas? Premièrement, à la tête, le casque du salut. Le point de départ pour que vous soyez protégé contre l'adversaire. N'oubliez pas, votre cœur ne se trouve pas qu'à la poitrine, il se trouve dans votre tête. Une chose qui gardera votre esprit, votre pensée, qui vous mettra à l'aise, qui fera que, quelles que soient les tentatives de l'adversaire d'essayer de pénétrer votre tête, il ne réussisse jamais, ce que vous soyez rassuré de votre salut. Vous sachiez qui vous êtes devenu en Christ. Qui êtes-vous devenu en Christ? Si vous n'avez pas conscience de votre nouvelle identité et du prix du salut qui a été payé en votre faveur, de la garantie de votre éternité, vous êtes très, très facilement malléable par l'adversaire. Revêtez-vous de votre salut. Prenez-en compte. Entrez dans ce salut et prenez-en conscience. Donnez votre vie à Jésus, c'est le seul moyen d'être protégé des attaques du diable. Et prenez conscience de qui vous êtes devenu en Christ. Pourquoi? Parce que le cuirasse de la justice, le cuirasse de la justice, vous portez autour de votre cœur, votre poitrine, la justice. La justice que vous avez obtenue par Christ, juste que vous êtes devenu par Christ, et juste que vous devez devenir comme Jésus. Vous voyez, là, on n'attaque pas encore le diable. On n'a rien fait à Satan. Tout ce qui se fait, ça, se fait sur nous-mêmes. Et donc, ça veut dire ceci. Il y a des choses que si tu le fais sur toi, tu l'as automatiquement fait contre Satan. Ah oui, apprenez à bien combattre. J'enseigne pas encore le combat spirituel, mais je suis obligé de parler de ça. Quelquefois, on passe tellement de temps à aller vers l'ennemi qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des choses qu'une fois qu'on les a faites chez nous, ça cause automatiquement quelque chose du côté de l'adversaire. Les armes avec lesquelles l'ennemi veut nous attaquer deviennent nulles, sans effet escompté, parce que nous, nous avons été mieux édifiés, nous avons été mieux protégés. Quand l'ennemi lancera quelque chose contre notre tête, ça te frappe et ça ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'on est garanti de notre salut, de notre identité en Christ. Quand il attaque là vers notre poitrine, ça ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'on a accepté la justice de Dieu, non pas par nos œuvres, mais par sa grâce. Mais parce qu'on a aussi accepté de vivre une vie de juste, en l'exemple de Christ, en exprimant toute notre justice aussi autour de nous. Mais à part ça, prenez aussi le zèle de l'Évangile, les ailes que donne l'Évangile de paix, comme, n'est-ce pas, la Bible appelle ça comme vos sandales, comme vos chaussures à vos pieds. Mes frères, vous ne pouvez pas être stable dans ce monde et poser vos pieds à terre et vivre réellement si la motivation de votre cœur est devenue perdue. Le diable va chercher dans la motivation. Si regarde, pourquoi tu fais ça? Pourquoi il va à l'église? Pourquoi elle prie? Le pourquoi est le seul moyen qui te permet d'avoir racine. Celui qui connaît ses pourquoi est stable dans ses actions. Celui qui a rassuré ses pourquoi est stable dans le combat. Quand tu as rassuré tes véritables motivations, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui est en réalité derrière comme motivation? Tu es stable, tu es enraciné. Tu es comme quelqu'un qui est en plein milieu d'une vallée où se battent beaucoup de combats, mais qui a porté des chaussures. Il était important pour les soldats de porter des chaussures, parce qu'ils étaient souvent dans le désert, et ils étaient souvent dans des endroits où il y a eu des guerres précédentes. Donc, il y a plein d'ossements à gauche et à droite. Alors, tant qu'ils n'ont pas de chaussures, ils sont instables même dans le combat. Ils ne savent pas rester. Ils doivent déjà se battre avec le sol avant de se battre contre l'adversaire. Est-ce que vos motivations sont pures? Est-ce que vous êtes passionné pour le Seigneur? Est-ce que vous avez encore dans votre cœur le plaisir de suivre Jésus et de parler de Jésus? Vous imaginez la passion de Christ, la passion du message de Christ, le goût de l'évangélisation et de gagner les âmes est déjà un moyen de faire perdre à l'adversaire l'avantage dans votre vie. Allez, il suffit pas d'aller en retraite pendant 21 jours et ne jamais en sortir. Et c'est dire, là, j'ai gagné mon combat. Non, une partie de votre combat est gagnée par le fait que vous êtes dehors à témoigner de Jésus, au lieu de travail, à parler de ce que vous êtes devenu chrétien, à partager aux autres votre joie, à ne pas gagner des âmes pour être béni. Ah, moi, j'ai gagné quelques âmes, le Seigneur me bénira. Non, parce que je suis passionné de Christ, j'ai de l'amour pour le Seigneur. Le pourquoi? Le diable, quand il veut vous attaquer, il va bien analyser votre motivation. Quel est le zèle qui l'anime? Dès que, aïe, j'y vois, derrière, il y a de l'argent. Tu es devenu complètement fragile dans le combat. Alors, tu veux résister aux attaques de l'ennemi qui ne touchent pas ton cœur, vérifie à l'intérieur. Tu le fais pourquoi? Mais il n'y a pas que casque, il n'y a pas que cuirasse, il n'y a pas que chaussures. La Bible parle de ceinture, de la vérité. La ceinture était très importante. C'est elle qui permettait de tenir les habits, mais aussi de porter la cuirasse. Et quand vous n'avez pas de ceinture, vous n'avez pas de support pour la cuirasse. La vérité comme ceinture. À nos reins. Waouh! Les reins étaient quand même un endroit assez important à protéger pour un combattant. Celui qui dit la vérité, qui vit dans la vérité, selon la parole de Dieu, qui veut que sa vie soit conforme à ce qui est écrit, s'est déjà positionné au-dessus de l'adversaire. Mais vivre dans la vérité, c'est bâtir un rempart contre les attaques du diable. Parce que l'ennemi sera toujours dans le mensonge. Il sera toujours dans l'à-peu-près. Il donnera toujours l'impression que c'est vrai pendant que ce n'est pas. Vis ta vie dans la vérité. Tu as déjà gagné une grosse guerre de combat spirituel. Oh, tu pourrais ne pas savoir qui est derrière, qui t'attaque. Mais si tu vis ta vie dans la vérité, dans ce qui est écrit, tu dis les choses telles qu'elles sont. Tu fais de ton mieux de t'éloigner du mensonge. Tu vis dans la vérité de la parole parce que c'est elle qui est la vérité. Eh bien, tu as déjà bâti des remparts dans ton cœur. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'arrive. Priez pour moi, peut-être que je dois m'améliorer. Mais il arrive des fois que tu es vraiment tenté de présenter les faits d'une autre manière. Je dis, bon, est-ce que je dois ajouter un peu plus de détails? On ressent, vous peut-être pas, je n'oserais pas dire tous, mais il arrive quelques fois où tu sens que tu peux glisser un mot vers un autre et la vérité n'est plus la même. Et toi-même, tu te dis, oh, la façon dont j'ai raconté ça, ça ne fait pas justice à la vérité. Et tu es obligé de dire, non, là, je pense que je dois pas dire plus. Et quelquefois, avant, j'avais, c'est que ma mémoire me disait, ah, il y en avait 200. J'ai dit, il y en a 200. Après, je vais vérifier, je me rends compte, ah, il n'y en avait pas 200. C'était à peine 80. Mais moi, j'avais vu que c'était beaucoup. Alors, je me suis dit, 200. Avec le temps, j'ai commencé à me dire, attends, est-ce que tu n'es pas en train de mentir, là? Désormais, je ne laisse pas ma mémoire être la seule raison pour laquelle je parle. Quand je sais dans ma mémoire, je me dis, OK, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens, je dis, je suis obligé de les dire. Vraiment, moins que ma mémoire me trompe, j'ai eu l'impression qu'il y en avait 200. Ben, peut-être qu'il y en avait moins. Je préfère être juste et ne pas m'asseoir un moment et faire un débat avec l'ennemi dans le cœur. T'es sûr qu'il y en avait 200? Regarde bien, il n'y en avait que 80. Tu vois, tu as menti. Le diable, quand il sait que tu as quelque chose de lui en toi, il sait combien fragile tu deviens. La Bible déclare, Jésus-Christ dit, le prince de ce monde arrive et il n'y a rien de lui en moi. Alors, quand je dis rêver l'armure, c'est de ça que je suis en train de parler. Mais aussi, cuirasse, plutôt bouclier de la foi. La Bible dit contre lequel viennent s'échouer tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est-à-dire, il y a des attaques, le diable, il jette, il envoie. Mais garder confiance en Dieu te permet de résister aux attaques de l'ennemi. Tu veux protéger ton cœur contre les attaques de l'ennemi, l'ennemi fera de tout son mieux pour te faire perdre confiance à Dieu. Il le rendra rationnel quand c'est spirituel. Il te fera douter à un moment où tu t'y attends le moins. Mais garde ta confiance et ta foi en Dieu. C'est ce qui sera pour toi la force qui te fera résister contre les attaques de l'ennemi. Ce seul premier point aurait pu suffire pour toute la journée d'aujourd'hui. Parce que le fait de regarder ces points-là en détail, de se revêtir de l'armure de Dieu, c'est ça notre meilleure façon de nous protéger contre l'ennemi. Bien sûr, il y a l'épée de l'esprit qui est beaucoup plus offensive. Mais ici, j'essaie d'étudier plutôt comment on se protège, pas comment on attaque, comment on se protège. J'ai parlé de salut, j'ai parlé de justice, j'ai parlé de chaussures de la vérité, les ailes de l'évangile, de la cuirasse, de la ceinture de la vérité. Et je parlais de l'épée, plutôt du bouclier de la foi. Mais la deuxième chose que l'on peut faire, que doit faire un enfant de Dieu, quand il veut se protéger contre les attaques de Satan. Deuxièmement, c'est que mon frère, tu dois résister au diable avec foi. Maintenant, on va dans l'offensive. Ce n'est pas l'offensive à 100%. Quand vous regardez la guerre que Jésus-Christ a avec Satan, le combat dans le désert, vous voyez très bien que c'est l'ennemi qui commence. Boum, boum, boum. Mais vous voyez très bien que Jésus-Christ ne fait pas qu'esquiver. Il ne fait pas que battre en retraite. Il résiste. Donc, il trouve non seulement le moyen de contrer, mais le moyen de repousser l'ennemi. Du coup, le diable vient. Si tu es le fils de Dieu, transforme ceci en pain. Tout de suite, non, Jésus n'esquive pas le débat. Il ne dit pas, non, moi, je ne suis pas venu pour ça. Non, il dit, l'homme ne veut pas de pain seulement. On reste dans l'affaire de pain, mais je vais te montrer où se trouve réellement la vraie place du pain. L'homme ne veut pas de pain seulement, mais toute parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est ce qu'on appelle résister. C'est-à-dire que Le contexte a été créé, quelquefois on ne sait pas fuir. C'est pourquoi on ne résiste pas à l'impudicité. Vous voyez, on fuit l'impudicité. Mais là, aux attaques du diable, on résiste. C'est-à-dire que tu es dans le contexte qu'il est venu imposer, mais c'est à l'intérieur de ce contexte que tu trouves les clés de la parole de Dieu pour en sortir. Résister au diable avec foi et fermeté. Mon frère, résiste. Ma sœur, résiste. Jacques chapitre 4, verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. » Soumettez-vous donc à Dieu. Placez-vous sous sa main puissante. Alors, la suite. Dans ce texte, dans l'original, il y a la relation de cause à effet. En français, vous ne le voyez pas très bien, mais dans le grec, il y a la relation de cause à effet. C'est-à-dire, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fera loin de vous. Ça veut dire, soumettez-vous donc à Dieu, alors vous pourrez résister au diable, il fera loin de vous. Ou alors, on peut dire encore, résistez au diable, il fera loin de vous, puisque vous vous serez soumis à Dieu. Donc, le fait de se soumettre à Dieu a directement de l'effet sur ta capacité à résister au diable. Résister au diable avec foi, ça signifie se soumettre à Dieu en même temps. Ça signifie suivre ce que le Seigneur veut de toi. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. J'aime cette version. Parole, lui, second dit, il cherche qui dévore. Mais parole vivante dit, il cherche qui se laissera dévorer. C'est-à-dire, si tu n'es pas vigilant, tu te laisseras toi-même dévorer. Opposez-vous à lui avec une foi inébranlable. Vous savez que vos frères dispersés à travers le monde passent par les mêmes épreuves. Vous n'êtes pas le seul. La Bible reconnaît que cette épreuve existe. Il faudra résister au diable avec une foi inébranlable. Tes convictions doivent être des convictions intérieures, implicites, à l'intérieur de toi. Tu dois croire en Jésus réellement, quelles que soient les circonstances. Tu dois croire aux promesses de Dieu réellement. Ça doit être des vraies convictions dans le cœur, de sorte que même quand le diable te dit « Ah, ce que le Seigneur a-t-il réellement dit ?» tu sois capable de répondre par « oui, il l'avait dit ». Tu dois être convaincu à l'intérieur de toi, avoir confiance totale en Dieu et confiance totale aux armes et aux choses que Dieu a mis entre tes mains. Le diable, comme un chien, sait reconnaître celui qui a peur. Vous avez jamais trouvé ça bizarre? Les chiens, un animal, tu te dis, c'est un animal, il n'a pas le même degré d'intelligence. Mais là, ce degré de perception, où quand tu as peur, sans que tu l'aies dit, même sans que tu n'aies dit mot, le chien ressent, reconnaît la peur. Vous voyez à quel point, c'est vrai que les animaux font de fois des réactions spirituelles qu'on se demande à quel est le degré de spiritualité de ces animaux. De fois, vous voyez qu'un chien crie parce qu'il y a un esprit ou un animal réagit, tout ça. Et le chien a la capacité de ressentir cette chose qui n'est pas physique, qui a un état d'âme, un état d'esprit. Quand il y a peur, il sait ressentir que cette personne a peur. Et le diable sait ça aussi. Il ressent que celui-ci n'a pas de foi. Même quand tu auras changé d'approche dans la manière de prononcer le mot au nom de Jésus, si c'est sans foi, si c'est sans confiance en Dieu, si c'est sans conscience de la spiritualité, le diable le sait. Le diable sait qui est en train de faire la récitade et qui est en train de croire réellement à ce qu'il est en train de croire. T'as dit un frère qui, tellement que la délivrance passait du temps, il a changé les approches du nom de Jésus, quoi. Hein? C'est l'histoire qu'un prédicateur raconte. Il dit, même s'il change des approches des noms de Jésus, il dit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Il a changé de façon de le prononcer, mais est-ce que il y a la foi dans le cœur? Est-ce qu'il y a une relation entre toi et Jésus? Une des choses qui nous donne la capacité de résister fermement à l'ennemi, c'est notre confiance que nous avons en Dieu. Troisièmement, veille sur tes pensées, mon ami. Veille sur tes pensées, ma sœur. Veille sur tes pensées. Tu vas garder ton cœur à l'abri des attaques du diable. Tu te réveilles de l'armure. tu le résistes avec foi, tu veilles sur tes pensées. Ah, il y a une grosse guerre. Je vous avais dit que le seul premier point suffisait déjà pour dire tout ce qu'il y a à dire. Je suis juste en train de mettre encore de l'emphase sur ces aspects. Veille sur tes pensées, c'est presque ce que je vous ai dit quand je parlais du fait de mettre le casque de salut. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend capables de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre lui. Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à l'obéissance au Christ et à reconnaître son autorité. Paul est en train de parler du fait que l'évangile, la prédication de l'évangile a pour but de faire une grosse guerre avec les pensées des gens et les raisonnements sophistiqués qui les éloignent de Dieu et qui créent une sorte de bastion, une sorte de forteresse, comme dit Louis Segond. Et dit, nous renversons maintenant les forteresses à travers la parole de Dieu. Ces forteresses sont quoi? Sont des raisonnements et des pensées qui gardent les gens captifs. Et souvenez-vous, les pensées peuvent devenir source de prison. Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. D'un côté, le monde est emprisonné dans ses pensées sophistiquées. De l'autre côté, Paul insiste aux Philippiens que ne mettez pas n'importe quoi dans vos pensées. C'est que ça soit seulement des choses qui sont bonnes, aimables et tout ça. C'est pour démontrer combien la pensée, justement, cette partie qu'il dit dans nos pensées, c'est aussi la même expression que la Bible dit dans nos cœurs. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi à l'intérieur. Veillez sur vos pensées. Parce que vos pensées ne sont pas que là, dans votre tête. Vos pensées sont aussi là dans votre cœur où vous pensez qu'ils soient. Depuis qu'on a commencé avec vous, vous savez bien que le cœur n'est pas là dans la poitrine. En réalité, il est là dans la tête, là où nous pensons. Ce qui signifie que, en faisant ce même jeu d'idées, ça veut dire que vos pensées ne sont pas que dans vos têtes, elles sont aussi dans votre cœur, si vous pensez que votre cœur est dans votre poitrine. Donc faites attention à vos pensées. Vos pensées peuvent devenir des mouchards. Que le diable, si le diable lâche des pensées qui entrent, des arguments qui commencent à devenir approuvés dans votre esprit, ça veut dire que l'ennemi a trouvé une place par où commencer à vous envahir. Et la quatrième chose que je vais vous suggérer aujourd'hui, c'est que mon frère, s'il te plaît, maintiens une vie de discipline spirituelle. Pas seulement prier, on a parlé de prier hier, mais avoir des disciplines spirituelles, telles que veiller, telles que jeûner. Il m'est tard de commencer une série qui parlera essentiellement du jeûne. Comment on jeûne? Qu'est-ce qu'on jeûne physiquement, spirituellement, mentalement? On sera en détail. Mais ici, apprenez à faire des exercices spirituels. La Bible montre quelque chose de très intéressant. On ne va pas lire ça aujourd'hui. Mais Jésus, quand il explique aux disciples pourquoi ils n'ont pas été capables de pouvoir repousser un genre d'esprit, il leur a dit que pour que vous puissiez être capable de repousser cet esprit-là, vous, votre vie devait être une vie de jeûne et prière. C'est-à-dire une vie des disciplines spirituelles vous met en meilleur état d'exprimer plus d'autorité. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ça signifie que vous pouvez manifester plus d'autorité, donc être capable de pouvoir repousser un esprit dans notre rang parce que vous avez une vie de jeûne et de prière. Une vie de jeûne et de prière, des disciplines spirituelles. Veiller, jeûner, prier. Pas seulement prier au quotidien, mais y ajouter l'exercice spirituel. Ces exercices qui réduisent à notre chair, à notre corps, ses envies, ses besoins, ses désirs, et maximisent le temps dans la présence de Dieu. Ça bâtit notre homme intérieur et ça nous permet à notre cœur de résister aux attaques du diable. Matthieu 26, 41 dit, veillez et priez pour que vous ne cédiez pas à la tentation. Certes, l'esprit est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est faible et le corps a ses défaillances. Veillez et priez. Éphésiens 6, 18 dit, « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Est-ce que votre cœur est en proie actuellement à l'ennemi? Est-ce que vous avez l'impression que vos remparts ont été détruits, que le diable a trouvé un moyen. Aujourd'hui, ce qui se passe dans votre cœur, vous êtes perturbé, complètement perturbé. Vous dites, oh, quand est-ce que j'ai laissé le diable venir faire ça dans ma vie? Laissez-moi prier avec vous. Père éternel, je te prie. Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie. Fais tomber les écailles des yeux de ma sœur et de mon frère. Il y a des choses, des mensonges auxquels il a déjà adhéré, il a cru. Le diable a menti d'une manière ou d'une autre, dans une situation de la famille, dans une situation de l'Église. Il a accepté un mensonge qu'il n'a jamais appelé mensonge, qu'il ne savait pas. Or, c'était la stratégie de l'ennemi de pouvoir pourrir, abîmer, détruire son cœur. Il sait que s'il a son cœur, toute sa vie serait comme un cheval avec sous des ayeurs qui ne verraient qu'une seule direction. Il sait qu'ici, il pouvait polluer un peu son cœur dans un aspect ou un autre. Tous les restes ne vaudraient plus rien, ne signifieraient plus rien. Pendant que tout le jour, il a les poings bien levés à se battre spirituellement, à chasser des démons. Or, son cœur a déjà été envahi. Aujourd'hui, je prie que ta lumière vienne et que là où l'ennemi se cache, il soit dévoilé au nom de Jésus. Père, redonne-nous l'autorité, la place. Nous voulons regagner, reprendre toute autorité à l'intérieur de nos cœurs. Oh Seigneur, je prie, plus que jamais, chacun de nous qui a suivi cette émission prenne conscience de combien importante est l'armure de Dieu. Et qu'avant de tenter de vouloir attaquer, on doit être très bien rassuré de comment on est protégé et usé de nos capacités de protection. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors voyons-nous demain pour continuer ça. Dieu vous bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.